L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est presque 22h30. Ce 19 mai 1962, quand Peter Lawford, célèbre acteur américain de l'époque, appelle Marilyn Monroe sur scène pour la 20e fois consécutive. Ladies and gentlemen, Marilyn Monroe. Mais rien ni personne n'apparaît. L'actrice se fait désespérément attendre. On ne le sait pas encore à ce moment précis, mais il sera aussi la dernière personne à annoncer l'artiste, avant qu'elle ne se donne la mort à peu près 3 mois après cette fête. Ce soir-là, le 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, célèbre son 45e anniversaire. Et Marilyn, qui fait déjà vibrer le grand écran depuis le début des années 50, joue les retardataires. La salle est pas n'importe laquelle, puisque nous sommes au Madison Square Garden, est pleine à craquer. 15 000 personnes et 4 millions de téléspectateurs. Tous en ébullition, en attendant celle qui va devenir une icône incontournable de toutes les générations. La foule s'est donc réunie dans le stade le plus célèbre de New York. Le prix du ticket atteint les 1 000 dollars, l'équivalent d'environ 8 200 euros, dont les bénéfices reviendront au Parti démocrate. Le public s'impatiente. Les organisateurs désespèrent. Va-t-elle vraiment monter sur scène? Lui serait-il arrivé quelque chose? Se serait-elle dégonflée en dernière minute sous une quelconque menace ou pression? Des rumeurs se propagent dans la salle. Il est 22h30, l'heure H de mon histoire. Le 9 avril 1962, le tournage du film « Something's Got to Give » devait démarrer à Hollywood. Hélas, Marilyn Monroe est victime d'une sinusite chronique. Vraiment malade et cloué au lit, il est impossible pour l'actrice de commencer le tournage. Les jours passent. La Fox se demande si elle est véritablement incapable de tourner, ce qui est le cas, ou si elle est sujette à une dépression, ce qui en réalité n'est pas loin de la vérité. Ou encore si elle fomente un sabotage, car les producteurs sont conscients que la comédienne est clairement sous-payée par le studio. Le 30 avril, Monroe se présente dans le studio pour tenter de tourner les premières scènes de ce film. Malheureusement, elle s'effondre 90 minutes plus tard. Elle doit être raccompagnée à son domicile. Le 14 mai, Marilyn Monroe va bien mieux. Elle est enfin capable de remonter sur le plateau. La rumeur court qu'elle compte se rendre le samedi 19 mai au Madison Square Garden pour le gala d'anniversaire de John Fitzgerald Kennedy en l'honneur de ses 45 ans. Il paraît même qu'elle a commandé une robe sur mesure pour l'occasion. Le souci, c'est que l'actrice n'est pas forcément la bienvenue à cet événement. La Fox la menace de renvoi clair et net si elle se rend à New York les jours qui suivent. Personne ne veut de sa venue sur place. Des responsables du Parti démocrate vont même jusqu'à demander au coordinateur du gala de l'éliminer du programme. Et pourquoi cela? Sans doute parce qu'au printemps 1962, les rumeurs d'une relation entre le président des États-Unis et l'actrice vont bon train et que tout le monde, ou presque, a un avis sur la question. Pas de chance pour eux. La star est bien décidée à chanter son Happy Birthday au président des États-Unis, quoi qu'il lui en coûte. Monroe n'est pas du genre à se laisser faire. La veille du jour J, John Fitzgerald Kennedy est anxieux, très anxieux, quand il pense à la soirée. Marilyn a confirmé sa prestation et personne ne sait exactement ce qu'elle va faire sur scène. Monroe est un être délicieux, mais instable, très instable et surtout incontrôlable. Il sait qu'elle est capable de beaucoup de choses et ça l'ennuie énormément. Ce n'est pas bon pour sa communication. JFK est jeune, beau, charismatique. L'Amérique tout entière l'adule et il est habitué à obtenir ce qu'il veut. Entré en poste le 20 janvier 1961, il est à 43 ans le plus jeune président élu des États-Unis. Il sera également le plus jeune président à mourir, moins de 3 ans après son entrée à la Maison-Blanche à l'âge de 46 ans. Et pour l'instant, sa préoccupation du moment, c'est ce gala et le show de Marilyn. En réalité, JFK n'a que faire des rumeurs sur ses infidélités. Il aime les femmes plus que sa femme. Et ça, tout le monde le sait. Mais cela doit rester de l'ordre du privé. Si sa liaison avec la star de cinéma est connue par leurs familles et amis respectifs, elle reste secret défense pour l'Amérique puritaine. Elle ne sera officiellement confirmée qu'après la mort des deux protagonistes. La relation sera même certifiée par la CIA bien après la mort du président. En public, Kennedy a besoin de paraître pour un président intègre, fidèle. Il se doit de contrôler cette image d'homme fort et respecté qu'il a construit de toutes pièces, sans jamais rien laisser au hasard. Hélas, avec Marilyn, c'est compliqué. Il paraît qu'elle se serait même crue première dame des États-Unis. Il n'est pas loin de la vérité, puisque quelque temps après le début de leur liaison, l'actrice aurait bel et bien appelé la Maison-Blanche pour s'entretenir avec Jackie Kennedy, la vraie First Lady donc, à qui elle aurait annoncé qu'elle prendrait sa place bientôt. « Marilyn, vous épouserez John, c'est génial. Vous emménagerez à la Maison-Blanche et vous assumerez les responsabilités de première dame. Quant à moi, je déménagerai et vous aurez tous les problèmes. » Lui aurait, selon la rumeur, répondu Jackie Kennedy. Jacqueline Kennedy, une femme belle, intelligente, brillante même. Elle assume son rôle de première dame avec brio. Oh, elle est loin d'être naïve, ou du moins, si elle l'a été un jour, elle ne l'est plus. Elle est tout à fait consciente des infidélités de son mari. Elle n'a même jamais craint une seule de ses liaisons. Elle les acceptait tant que son image n'était pas écornée publiquement. Quand elle épouse JFK le 12 septembre 1953 à l'église Sainte-Marie de Newport, elle est sans doute déjà consciente de ce qui l'attend. Très peu de temps après leur mariage, leur couple bat déjà de l'aile à cause de ses problèmes d'infertilité, surtout des infidélités de son mari. Même si la communication entre eux est compliquée, Jackie reste une épouse dévouée à la vie publique de son mari. Après tout, son père trompait aussi sa mère et ça ne l'a jamais empêché d'être un homme bon. D'emblée, Jacqueline s'oppose à la venue de Marilyn à cette soirée, donc, mais en vain. Dès la prestation de Monroe confirmée, Jackie Kennedy refuse catégoriquement de participer à ce gala donné en l'honneur de son mari. Elle préfère rester faire du cheval dans la propriété familiale de Glenora, en Virginie, avec ses enfants. Lorsque quelques jours plus tard, on lui demandera ce qu'elle a pensé de la prestation de Marilyn, elle répondra simplement que la vie est trop courte pour se soucier de Marilyn Monroe, même si en coulisses. Elle est bien sûr furieuse de ce show dont tout le monde parle partout. Contre toute attente, la première dame n'en voudrait pas à son mari, mais plutôt à son beau-frère. « Oh, pour moi, c'est Bobby qui a orchestré tout ça, le procureur général et le fauteur de troubles !» aurait-elle lancé à sa sœur lors d'un coup de fil plein de colère. Jalousie mise à part, Jackie Kennedy ignorait sans doute encore la portée historique de ce moment qui précédera de 3 mois le suicide de la star du grand et petit écran. Il faut dire qu'au début des années 1960, Marilyn Monroe n'est plus au sommet de sa gloire, même si sa popularité demeure intacte. L'actrice est dépendante aux amphétamines, aux barbituriques et à l'alcool. Et du coup, sa santé mentale n'est franchement pas au beau fixe. Marilyn souffre de graves problèmes psychologiques. Elle est sujette à une grosse dépression, mais aussi à de l'anxiété. Malgré sa notoriété, elle a une faible estime d'elle-même et de ce qu'elle entreprend ces derniers temps. Il faut dire que la presse américaine de l'époque n'est pas tendre avec elle. Ses 2 derniers films, Le milliardaire et Les désaxés, sont des échecs commerciaux et l'actrice qui enchaîne les succès jusque-là a du mal à faire face à ses mauvaises critiques. Dans le premier film, elle partage l'affiche avec Yves Montand. Très vite, les acteurs se retrouvent épris l'un de l'autre à la vie comme à la scène. Hélas pour eux, ils sont tous deux mariés et une fois le tournage terminé, Yves Montand retourne auprès de sa femme en France, une certaine Simone Signoret. Lorsque des années plus tard, on demanda à Signoret ce qu'elle pensait de Marilyn, Elle répondit simplement que c'était une femme de goût, puisqu'elle avait aimé son mari. Plutôt chic. Dans les désaccès, Monroe partage l'affiche avec Clark Gable. Le tournage est compliqué puisque Marilyn est souvent malade, très instable. Elle sera même hospitalisée 10 jours pendant le tournage. Sur le plateau, Gable se plaint souvent de Marilyn. « Cette femme va finir par me faire faire une crise cardiaque !» Ironie du sort, Clark Gable disparaît vraiment d'une crise cardiaque le 16 novembre 1960, à peine quelques jours après la fin du tournage. Ce sera leur dernier film abouti à tous les deux. Certaines mauvaises langues vont même jusqu'à dire que c'est l'actrice qui l'aurait tué à cause de ses nombreux retards sur le plateau. Ce qui ne va évidemment rien arranger à la santé mentale de l'artiste. Alors que la prestation de l'acteur et de l'actrice sont saluées par les journalistes, le long métrage, comme le précédent de Marilyn, est un échec au box-office. Ces films ont pourtant été écrits par son mari du moment, Arthur Miller. Entre échecs professionnels et fausses couches, leur couple ne résiste hélas pas longtemps aux aléas de la vie. Leur divorce est prononcé en janvier 1961. Pourtant, le 29 juin 1956, Marilyn Monroe est éperdument amoureuse lorsqu'elle épouse Arthur Miller, qu'un ami lui a présenté 8 ans auparavant. C'est le 3e mariage pour l'actrice, le 2e pour l'écrivain. L'auteur la rassure, calme ses angoisses. Elle l'admire, elle le respecte. Le 1er août 1957, Marilyn Monroe, enceinte de son nouveau mari, est admise aux urgences de Los Angeles. Après une prise en charge rapide, les médecins lui diagnostiquent une grossesse extra-utérine qu'il faut absolument interrompre pour protéger la vie de l'actrice. C'est là qu'elle apprend qu'elle ne pourra malheureusement jamais avoir d'enfant. Un coup terrible pour l'artiste qui rêve de donner la vie depuis plusieurs années sans jamais y arriver. C'est à ce moment précis, dans sa chambre d'hôpital, que son mari décide de lui offrir un rôle sur mesure, en cadeau pour lui remonter le moral et lui prouver son amour. Il est non seulement conscient que sa femme ne s'en remettra pas, mais il sait aussi qu'elle ne s'épanouit plus dans son métier. Miller l'encourage tout de même à tourner « Certains l'aiment chaud » qui sort en 1959. Et c'est carrément bien joué puisque le film est un énorme succès avec pas moins de 5 nominations aux Oscars. C'est d'ailleurs le nom de Marilyn Monroe qui sera mentionné en haut de l'affiche, au-dessus de celui de ses partenaires masculins, Tony Curtis, Jack Lemmon. Marilyn obtient même le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical. On l'aura compris, même si elle est alors au sommet de sa gloire, Marilyn est malheureuse et la vie ne lui fait pas de cadeau. À la fin de ce tournage, elle fait de nouveau une fausse couche qui confirme ce que les médecins lui avaient annoncé 2 ans auparavant. Monroe souffre d'endométriose, une pathologie peu connue à l'époque qui l'oblige à ingérer de grandes doses de médicaments pour supporter la douleur. Entre 1952 et 1962, l'actrice sera opérée à 7 reprises pour calmer ses douleurs. En vain. Elle ne pourra non seulement jamais avoir d'enfant alors qu'elle le souhaite, mais elle en souffrira autant moralement que physiquement. Et ce sont peut-être d'ailleurs ses douleurs qui l'auraient tuée, puisque c'est une surdose d'antidouleurs qui auront raison d'elle un jour. Mais pour l'heure, Marilyn entend bien mener sa vie comme elle le souhaite, en surmontant chacune de ses peines.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de Marilyn Monroe, un nom qui a marqué l'histoire avec une extraordinaire carrière. Sex symbole ultime des années 50, actrice au destin tragique, elle fascine encore toujours autant à notre époque. Entre drames, films cultes et scènes historiques, nous revenons sur une partie de cette destinée hors du commun. Premier juin 1926. Norma Jean Mortensen voit le jour à Los Angeles. Ce nom ne vous évoque peut-être pas grand-chose, mais c'est celui que portait Marilyn Monroe à sa naissance. Elle ne connaîtra jamais l'identité de son père et sera très vite placée en famille d'accueil, puis dans un orphelinat, puisque sa mère souffre de schizophrénie. Jugée inapte à s'occuper de ses enfants, cette dernière sera admise dans un hôpital psychiatrique alors que Norma est à peine âgée de 7 ans. Les troubles mentaux de sa mère planeront sur la future Marilyn Monroe toute sa vie durant. La jeune femme est persuadée d'avoir hérité des angoisses de sa mère. En 1941, Norma Jean fait la connaissance de James Dougherty, un voisin de 5 ans son aîné, ouvrier dans une usine du coin. Elle l'épouse le 19 juin 1942, à peine quelques jours après son 16e anniversaire. Bon, c'est toujours bien mieux que de vivre à l'orphelinat. L'année suivante, elle abandonne ses études pour suivre son mari dans la marine marchande. C'est là qu'elle se fait remarquer par des photographes militaires. Le 26 juin 1945, la future actrice fait sa toute première photo professionnelle dans le cadre d'une campagne de l'armée américaine pour illustrer l'implication des femmes dans la guerre. À cette époque, elle est ouvrière à la Radio Plane Company, une firme spécialisée dans l'inspection des parachutes et des ailes d'avion. Mais elle commence une carrière de mannequin en parallèle et pose dans de nombreuses publicités. Mai 1948. Attirée par le défi de braver les normes sociales de l'époque, Norma Jean pose discrètement nue dans un calendrier mural. 4 ans plus tard, elle est victime d'un maître chanteur qui la menace de divulguer ses photos alors qu'elle bénéficie déjà d'une certaine notoriété. Intelligente, pleine d'audace, Norma dévoile elle-même ses photos en disant simplement qu'elle avait besoin d'argent. Des photos ensuite vendues pour $500 à un certain Hugh Hefner pour son magazine Playboy. Un coup de génie, puisqu'après ça, son succès ne cesse de grandir. Elle enchaîne les couvertures et apparaît dans plus d'une trentaine de magazines. C'est la pin-up du moment. En 1945, la jeune femme abandonne son travail pour se consacrer pleinement à sa carrière de mannequin. Consciencieuse, assidue, elle prend des cours de mannequinat, signe un contrat auprès de l'agence Blue Book Modeling et tourne ses premiers films publicitaires. En février 1946, la future actrice éclaircit sa couleur de cheveux pour une publicité de shampoing sur les conseils de sa directrice d'agence. Elle lui dit ceci. « Écoute chérie, si t'as l'intention de réussir dans la pub, tu devras décolorer et lisser tes cheveux, parce que ton visage est un peu trop rond et un travail de cheveux l'allongera. » En voilà une bonne idée. Toutes les marques se l'arrachent. La pub, c'est bien. Seulement, Norma Jean rêve de devenir comédienne. Alors elle prend des cours de théâtre, passe des castings, des bouts d'essai, comme on dit à l'époque. Et c'est là qu'elle attire l'attention d'un cadre de la 20th Century Fox. Impressionné par son talent et sa chevelure blonde, Ben Lyon voit en elle la nouvelle Jean Harlow. Le 26 juillet 1946, Norma Jean signe son tout premier contrat avec la Fox pour un salaire de $75 par semaine. C'est à ce moment-là qu'elle devient Marilyn Monroe sur les conseils de Ben Lyon. Marilyn pour l'actrice Marilyn Miller et Monroe en hommage à sa mère dont c'est le nom de famille. Et elle ne le sait pas encore, mais elle adoptera officiellement ce patronyme 10 ans plus tard. Ben Lyon l'encourage aussi à divorcer, puisqu'il ne croit pas en l'avenir d'une future star si elle est déjà mariée. Il faut vendre du rêve aux gens. N'ayant plus vraiment de contact avec son mari, la nouvelle Marilyn voit ce divorce comme une simple formalité. C'est en 1947 que Marilyn Monroe apparaît pour la première fois sur grand écran dans « Bagarre pour une blonde » et « Dangerous Years ». Elle enchaîne ensuite les succès critiques et commerciaux et devient une véritable star, même si elle est toujours moins bien payée que ses partenaires masculins. En 1953 paraissent « Comment épouser un millionnaire » et « Les hommes préfèrent les blondes », film culte qui propulse l'actrice au sommet et confirme son talent et sa notoriété. Juste après leur sortie, Marilyn profite d'une interview dans le New York Times pour évoquer son envie de jouer des rôles plus sérieux. Mais la Fox, avec qui elle a un contrat de 7 ans, reste sourde à ses demandes. Marilyn Monroe n'est pas qu'une belle femme et une artiste de talent. C'est aussi une femme au grand cœur qui défend les causes des minorités et des droits civiques aux États-Unis alors que la ségrégation fait rage. En 1954, l'actrice rencontre Ella Fitzgerald, chanteuse de jazz noire dont elle est fan. Chanteuse qui endure de fortes discriminations à cause de sa couleur. Très vite, les deux femmes se lient d'une solide amitié. Marilyn assistera à un maximum de concerts possibles où Ella se produit. Elle exigera des patrons de club de faire entrer son amie avec elle par la porte d'entrée, à une époque où les Noirs américains ne peuvent utiliser que les portes arrière des établissements huppés. Marilyn arrive aussi à convaincre le patron du Mocambo, club de jazz phare de Los Angeles, d'engager Ella Fitzgerald pour une série de concerts. Jusque-là, il refusait de l'engager à cause de son surpoids et de sa peau foncée. L'actrice sera au premier rang tous les soirs, durant toutes les représentations de son amie. Elle apportera avec elle toutes ses connaissances les plus connues pour honorer la chanteuse et faire d'elle aussi une star. Elles resteront amies jusqu'à ce que Marilyn disparaisse peu de temps après sa dernière soirée de gala. À la fin des années 50, Marilyn est fatiguée que la Fox ne lui propose que des comédies légères avec des rôles de Bella Uri ou de vamp stéréotypée. En 1959, Arthur Miller passe une année entière à écrire le scénario des Désaxés, un film qui plaira sans le moindre doute à sa femme puisque le rôle principal s'inspire beaucoup de sa propre vie. Le film est un échec commercial, même si le jeu de l'actrice est salué par la critique. Marilyn hésite beaucoup avant d'accepter ce rôle, mais elle fait confiance à son mari. Elle est justement en quête de rôles plus consistants. Elle a d'ailleurs créé sa propre boîte de production à New York pour avoir plus de liberté dans ses films. La comédienne s'est aussi inscrite à l'Actor Studio pour perfectionner son jeu. Elle est très assidue. Les autres élèves la décrivent comme studieuse et sincère. Elle est même considérée par certains professeurs comme la meilleure élève de l'académie avec Marlon Brando, excusé du peu. Arthur Miller a toujours soutenu sa femme, même avant de l'épouser. Il est probablement tombé amoureux d'elle sur le tournage du film « 7 ans de réflexion » qu'il dirige en 1955. À sa sortie, le film est un véritable carton et génère plus de 8 millions de dollars au box-office. Ce film lui permet aussi, surtout et enfin, de négocier un nouveau contrat avec la Fox. Contrat qui lui donne plus de pouvoir, plus d'argent, un droit de regard sur le scénario, les gens avec qui elle collabore et lui permet enfin de travailler avec d'autres studios. Bref, c'est enfin le jackpot tant attendu. 7 ans de réflexion confirment donc véritablement le talent et la notoriété de l'actrice grâce notamment à cette fameuse scène qui vous dira certainement quelque chose où elle porte une robe blanche au-dessus d'une grille de métro dont le souffle la fait s'envoler. Alors que le film est tourné à Los Angeles, toute l'équipe fait le déplacement jusqu'à New York pour jouer cette scène, sans doute la plus célèbre de toute sa carrière. Un moment qui lui apportera la consécration ultime, mais qui lui coûtera son deuxième mariage avec le célèbre joueur de baseball Joe DiMaggio. Fou de jalousie de voir sa femme tourner cette scène encore et encore sur les directives du réalisateur. Après plusieurs disputes, Marilyn annonce leur séparation avant même la sortie du film. Il l'accompagnera tout de même lors de la première représentation. C'est un peu ça aussi, la vie de Marilyn. Des moments de vie qui entrent directement dans l'histoire, avec un grand H. Et le moment qui aura lieu au Madison Square Garden est sans doute le plus iconique de tous.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans leur H, je vous raconte l'incroyable histoire de Marilyn Monroe et de sa prestation organisée en l'honneur des 45 ans de John Fitzgerald Kennedy au Madison Square Garden. Un show qui a marqué l'histoire et la pop culture. Mais pour l'heure, elle n'est toujours pas montée sur scène et rien ne dit qu'elle va y arriver. C'est en février 1962, à l'occasion d'un dîner organisé en l'honneur de JFK à New York, que le destin des deux amants se lie à jamais. Ils se sont pourtant déjà rencontrés à deux reprises avant de vraiment prendre contact. Ou peut-être sont-ils déjà amants sans que tout le Gotha ne soit au courant. Des rumeurs disent que Peter Lawford, le beau-frère du président, les aurait déjà mis en contact alors que la comédienne était encore mariée à Joe DiMaggio. Quoi qu'il en soit, Monroe est ce soir-là, non par hasard, convié à un repas réunissant une vingtaine de personnalités de l'époque. La star hollywoodienne débarque évidemment avec près d'une heure de retard. Dès qu'il entre dans la pièce, la soirée bascule. Arlene Dahl, actrice aussi présente ce soir-là, raconte. Marilyn est entrée et tout s'est arrêté net. Tout le monde s'est arrêté. C'était magique. Je n'ai jamais vu quelqu'un arrêter le temps dans une pièce comme ça. À son arrivée, le président se serait simplement fendu d'un « Finally, you're here ». Finalement, tu es là. L'ambiance est plaisante. Le redoreur coule à flot et JFK demande son numéro à Marilyn juste avant qu'elle ne s'éclipse. Numéro qu'il compose dès le lendemain pour lui proposer de l'accompagner chez sa sœur à Palm Springs. Bien entendu, JFK insiste sur le fait que son épouse ne sera pas présente. La comédienne ne se fait pas prier une seule seconde pour se joindre à lui. Ah, Palm Springs, ses villas de rêve, son soleil permanent et son ciel bleu azur. Un cadre merveilleux pour débuter une passion. Les deux amants rient beaucoup, boivent énormément et partagent la même chambre. Malheureusement pour Marilyn, même si leur corps semble être au diapason, cette nouvelle liaison ne représente pas la même chose pour l'un et pour l'autre. JFK voit cette idylle comme une simple nouvelle aventure, l'occasion de se divertir avec un être nouveau alors que Marilyn est convaincue que c'est l'homme de sa vie. Elle est certaine d'être importante aux yeux du dirigeant des États-Unis. C'est là que va commencer sa nouvelle obsession. Sa dernière aussi. Malgré une santé fragile, un mental au plus bas, des addictions aux médicaments, à l'alcool, Marilyn veut absolument chanter à la soirée organisée en l'honneur des 45 ans de son amant. Même si, officieusement, personne ne veut d'elle sur place. Qu'elle reçoit des menaces de partout. Elle sera présente, quoi que cela lui coûte. Et attention, nous arrivons maintenant, enfin, au jour J, à leur H. Nous sommes le 19 mai 1962, il est presque 22h30. C'est enfin le moment pour Marilyn Monroe de se produire sur la scène du mythique Madison Square Garden. Fidèle à elle-même, l'actrice se fait prier avant d'apparaître sur scène. Tout le monde l'attend depuis au moins 20 minutes. Peter Lawford, qui présente la soirée, vient de l'appeler sur scène pour la 20e fois consécutive, sans la moindre apparition. Entre deux annonces, il tente une petite blague pour faire patienter le public, mais en vain. Toujours personne sur scène et son stock de plaisanteries fond comme neige au soleil. Soudain, Marilyn Monroe apparaît enfin. Ladies and gentlemen, the late Marilyn Monroe, lance le présentateur à une foule en délire. The Blonde Bombshell, comme l'appelle alors la presse américaine, monte finalement sur scène tout sourire. Une fourrure blanche glissée sur ses épaules et sur son corps. Une robe tellement moulante qu'on croirait une seconde peau qui brille de mille feux. Très vite, l'animateur lui retire l'étoffe pour mettre en valeur ses formes généreuses et ancrer dans de nombreuses mémoires l'anatomie de Monroe comme l'idéal féminin ultime de cette époque. D'abord, certains pensent qu'elle est nue. Cet habit dont on parle encore aujourd'hui a été dessiné par un jeune créateur, Bob Mackie, et réalisé par le couturier français Jean Louis. Il y avait comme un silence quand je suis venu chanter ce joyeux anniversaire. Si j'avais porté un slip, il se serait vu, je pense. expliquera l'actrice quelques mois plus tard à Life Magazine lors de sa toute dernière interview. Et petit détail qui a son importance, la robe de couleur chair est brodée à la main de 2500 cristaux, épousait tellement les formes de Marilyn, qui, on l'aura compris, ne portait pas de sous-vêtements, qu'elle a dû être cousue à même sa peau juste avant qu'elle n'entre en scène. La robe aurait craqué plusieurs fois durant l'habillage, ce qui explique en partie seulement ce si long retard. Marilyn n'avait donné qu'une consigne au créateur. Qu'elle soit si sexy, qu'elle seule puisse la porter sur la planète, sans rien dessous. 18 couturières consacrent 7 jours à temps plein pour y coudre les plusieurs milliers de pierres du Rhin, scintillantes sur 20 couches de soie. On était loin de s'imaginer à ce moment précis que 54 ans plus tard, en novembre 2016, ce vêtement deviendrait l'une des robes les plus chères au monde et qu'elle serait vendue aux enchères pour la coquette somme de 4,8 millions de dollars. Pas mal du tout. Pour une robe qui avait été payée 12 000 dollars par Monroe. Son couturier confiera, elle voulait réveiller les gens. Elle voulait quelque chose qui pourrait laisser supposer qu'elle était nue, le corps simplement couvert de diamants. On peut assurément dire que son pari fut réussi, mais revenons à cette fameuse soirée. Marilyn a répété durant des jours pour que sa prestation soit parfaite. 3 jours avant l'événement, on aperçoit l'actrice en train de répéter à New York, extrêmement tourmentée. Chaque pas, chaque placement de bras et de voix sont calibrés au millimètre près. Elle recommence encore et encore chaque sautillement et chaque déhanché pour livrer un show à son image, glamour, sensuel, comme le montrent des images des répétitions prises en amont de l'événement. Pourtant, avant de monter sur scène, Marilyn est stressée, anxieuse même. Elle est peu sûre d'elle, comme à son habitude, mais surtout, elle a reçu une visite dans sa loge qui l'a fortement perturbée, celle de Bobby Kennedy, le frère de John. Alors pour se détendre et se donner du courage, elle boit du champagne, beaucoup de champagne. Elle est en réalité presque ivre quand elle apparaît enfin sur la scène du Madison Square Garden à New York ce 19 mai 1962 pour chanter le Happy Birthday, Mr. President, le plus célèbre de l'histoire. Tout d'un coup, le public se calme pour l'entendre chanter, ou plutôt murmurer. Une chanson qui durera à peine plus d'une minute, avant qu'un énorme gâteau apparaisse sur scène. Il n'y avait plus aucun bruit, on serait cru dans l'espace. Il y a eu cette longue pause et puis, c'est incroyable, « Happy birthday to you » murmuré et tout le monde est tombé sous le charme. Se souvient Bill Ray, le photographe du magazine Life, présent dans la salle ce soir-là. Marilyn effleure d'abord le microphone avec un doigt, adresse un sourire ravageur à l'assemblée, joint ses deux mains sur ses yeux pour mieux voir la scène, un peu comme si elle cherchait quelqu'un dans la foule. Et soudain, l'ingénue timide se transforme en sex-symbole, confiante et sûre d'elle. Le clou du spectacle, c'est elle et pas de doute. Elle en est consciente. Dès le premier couplet, des applaudissements se font entendre. Tous les spectateurs sont pendus à ses lèvres. C'est surtout le ton si intime et son insistance sur les mots « Mr. President » qui enflamment le public, mais aussi la presse, et qui font entrer ce moment dans l'histoire avec un grand H. Susurré, presque soupiré, ce show emblématique n'a duré qu'une poignée de secondes seulement, et pourtant, plus de 5 décennies plus tard, il reste la plus célèbre version de « Happy Birthday, Mr. President », souvent imitée, jamais égalée. Cette interprétation alimente les rumeurs les plus folles de l'époque. Tout le monde, ou presque, pense, ou plutôt sait, que Marilyn entretient une liaison avec le charismatique président américain. D'autres spéculent sur le fait qu'elle serait plutôt en couple avec son frère. Et puis, Des rumeurs vont même jusqu'à dire qu'elle verrait les deux en même temps. Cette nuit-là, John Kennedy est d'ailleurs particulièrement inquiet. Un de ses agents des services secrets vient de lui affirmer que Bobby Kennedy, son frère, mais aussi son ministre de la Justice et Marilyn, se sont disputés dans les coulisses juste avant qu'elle ne monte sur scène. L'anniversaire de Kennedy n'est en réalité qu'un prétexte pour organiser un gala supposé lever des fonds pour le Parti démocrate. C'est donc tout le clan qui est concerné. Monroe est persuadée que JFK est fou d'elle, qu'il va bientôt faire d'elle la nouvelle première dame du pays. Bobby veut protéger les intérêts de son frère et n'hésite pas à dénigrer l'actrice en privé et en public pour lui faire entendre raison. Il est peut-être aussi secrètement amoureux de Monroe. Après le gala, une énorme fête est organisée chez un particulier pour s'amuser dans un cadre plus intime. Même si elle est nerveusement épuisée et pas franchement guérie de sa sinusite, Marilyn veut absolument se rendre à cette soirée, mais elle n'y est pas forcément plus attendue qu'à la réception. Encore et toujours objet de tous les regards, l'actrice est congratulée de toutes parts pour sa prestation et sa tenue. La soirée bat son plein quand Marilyn, JFK et Bobby se rejoignent un instant pour une discussion fort animée sans que personne ne sache vraiment de quoi ils discutent. Marilyn dansera avec Bobby à 5 reprises, mais pas une seule fois avec John. Malheureusement, John Fitzgerald Kennedy n'est pas homme à garder les femmes gênantes. D'autant que le scandale de leur liaison et cette prestation avaient rendu Marilyn très embarrassante. Après cette soirée, les deux amants ne se reverront plus jamais. À l'âge de 36 ans, Marilyn Monroe a tourné dans plus de 30 films. Entre tournages de publicité et longs-métrages primés, elle est sans le moindre doute l'une des actrices les plus prolifiques et les plus talentueuses de sa génération. À travers le temps, elle est devenue une icône culturelle de l'histoire du cinéma. Dans un monde dirigé par des hommes qui ne voient bien souvent en elle qu'un corps aux courbes pulpeuses et une chevelure presque aguicheuse, elle a su s'imposer tant bien que mal avec les possibilités que lui offrait son époque. Le 4 août 1962, à peine moins de 3 mois après cette fameuse soirée, Marilyn Monroe sera retrouvée morte dans sa résidence de Los Angeles. Une enquête a lieu et le médecin légiste conclura à un suicide probable. Sa mort ne sera jamais véritablement élucidée. Dès 1962, des thèses d'homicide sont lancées, incriminant le FBI, la CIA ou encore le clan Kennedy. Suicide ou assassinat? Aurait-elle servi d'instrument de vengeance des services secrets pour déstabiliser le président? L'énigme continue toujours de passionner les foules, tandis que Marilyn Monroe repose désormais au firmament d'Hollywood. Moins de 2 ans plus tard, le président Kennedy sera assassiné, emportant lui aussi dans sa tombe son lot de mystères, parmi lesquels celui de la profondeur de sa relation avec Marilyn, son amant tourmenté. L'a-t-il vraiment aimé? Cette soirée a en tout cas marqué un tournant net dans leur relation. Sans doute pas celui espéré par l'actrice, même si, moment parmi d'autres dans sa formidable carrière, cette soirée l'a fait rentrer un peu plus dans l'histoire et a sans doute contribué à faire d'elle une icône incontestable de sa génération et de celles qui la suivront. Voilà donc pour l'extraordinaire histoire d'une soirée de gala signée Marilyn Monroe que j'ai partagée avec vous grâce à la plume de Hajar Boulesh.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.